Vous écoutez
RMC.
Tiens, parlons de l'Olympique de Marseille, puisque Marseille a signé une pépite. Je plaisante évidemment ce que certains qualifient de pépite, toujours un peu trop vite, formule journalistique, un peu galvaudée, c'est épuisant. On verra ce qu'il vaut ce joueur, mais pour savoir ce qu'il vaut déjà, parlons-en avec Nicolas Cougot, rédacteur en chef de Lucarne Opposée. On parle de Luis Enrique bien sûr. Salut Nico.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et bienvenue dans l'After. Nico, spécialiste foot sud-américain. Dans un instant, Jonathan a très envie d'en parler. Je vais d'abord donner la parole pour nous présenter ce joueur. Je rappelle, 18 ans, il arrive de Botafogo pour environ 12 millions d'euros. 21 matchs, 2 buts en pro. Bon, t'as vu plusieurs de ces matchs avec Botafogo.
Ouais.
Il vaut quoi ce joueur, concrètement? Donne-moi le profil et ce que t'en as pensé sur les sorties avec Botafogo.
Le profil, on va y aller direct. C'est clairement pas l'avant-centre que l'OM était censé chercher. Pour dire les choses très clairement, dans tous les profils qu'on a vu passer ces dernières semaines, quelle que soit la véracité des rumeurs ou pas, quand on voit débarquer Luis Enrique, on se dit attendez, il s'est passé quoi en fait entre temps? Parce que Luis Enrique, c'est un ailier. On a entendu dire qu'il pouvait jouer un peu dans l'axe. Oui, ça lui arrive, mais franchement, quand vous le verrez jouer, vous comprendrez tout de suite que c'est pas un neuf.
Villas-Boas le sait, Nicolas.
Pardon?
Villas-Boas l'a dit, il le sait.
Ouais, il le sait, mais apparemment, j'ai cru comprendre qu'il avait peut-être l'intention de le modeler pour en faire un neuf.
Ouais, c'est ça.
On va voir. Et clairement, il a 18 ans, je crois qu'il va en avoir 19 en décembre. Il me semble qu'il est de décembre 2001. Pourquoi pas, à 18 ans, on peut encore te malléable. Après, si je dois parler du profil, c'est un garçon qui va très vite, c'est un garçon qui adore dribbler, qui est assez physique à l'échelle du Brésil. Maintenant, la grande question, c'est à l'échelle de la Ligue 1. On sait tous, quoi que l'on pense de la Ligue 1, que c'est un championnat extrêmement physique.
Bien sûr.
Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais c'est un garçon qui est solide. Par contre, pour le coup, oui, il est solide. Et voilà, donc c'est un provocateur. Pour moi, c'est un ailier.
Il est rapide.
Et je l'ai dit chez des confrères. On avait entendu parler de la rumeur Mbaye-Niang à Marseille. Si je dois faire une comparaison avec un profil rennais, pour moi, Luis Enrique, c'est Rafinha. Voilà, c'est ce profil-là. Voilà.
D'accord. Rafinha, donc rapide.
Comme ça, on voit un peu.
Rapide, qui peut faire des différences, casser des lignes, comme on dit.
Ouais.
C'est ça.
Il va justement permettre de casser des lignes par ses percussions. Voilà.
D'accord.
Et c'est pas un neuf.
Mais c'est un ailier. Et plus quel côté préférentiel, Nico?
À gauche.
Gauche.
En fait, c'est un droitier. C'est un droitier vraiment droitier pour le coup.
Bon, c'est bien.
Il doit chercher un défaut. Il a pas de pied gauche. Mais
il a pas de pied gauche.
À gauche pour revenir. Ouais.
Ouais.
Okay.
Juste, moi forcément on s'est renseigné et puis cet après-midi j'ai regardé aussi forcément les petites vidéos, j'ai regardé son profil et également sa morphologie, comme t'as dit, ça a l'air d'être quelqu'un de solide, de physique, de rapide. Alors moi tu as dit que c'était un ailier, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu aussi pour avoir discuté avec quelqu'un qui l'a vu jouer quelques matchs avec Botafogo. Moi, je dirais pas que c'est un ailier parce que le thème de la semaine, c'est un peu, on a parlé, je fais pas du tout de comparaison, mais la position, par exemple, préférentielle de Kylian Mbappé, qui est pour moi un attaquant d'aile. Et c'est Paulo Breitner qui nous expliquait, tu vois, qui nous expliquait très bien, parce qu'un ailier, c'est censé être un centreur, tu vois, quelqu'un qui donne les ballons. Et peut-être que Villas-Boas, quand il le voit en tant qu'attaquant, il parle pas forcément d'un numéro 9. Tu sais, le numéro 9, aujourd'hui, c'est un peu obsolète. Quand tu vois comme joue Liverpool avec un Firmino qui est numéro 9 dans l'âme, sur le terrain, mais qui sur le papier est un peu le numéro 10 qui décroche pour faire jouer les deux attaquants qui sont sur les côtés, pour eux qui prennent, tu vois, l'intervalle. Et si tu me dis que c'est un joueur qui peut rentrer assez vite, tu vois, pour le comparer avec un Brésilien qui joue en Première Ligue, est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il a un peu un profil Richarlison, tu vois?
Oui, complètement, oui. Et je te suis sur, c'est un joueur d'aile plus qu'un ailier, d'accord. Si on doit faire ce distinguo, d'accord, exactement, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas un garçon qui va partir, aller manger la ligne, aller déborder pour aller déclencher un centre derrière. Ça, on est complètement d'accord.
Ok, ok.
Ouais. Il te semble mûr pour débuter rapidement ou pas en Ligue 1, Nico? Évidemment, mais je veux dire, est-ce que tu penses qu'il faut s'attendre à un vrai temps d'adaptation pour lui? Parce qu'il n'a pas fait que du bon à Botafogo non plus, tu vois, il a alterné le bon et le moins bon.
C'est surtout qu'il arrive, pour dire les choses très clairement, parce qu'on quand on s'intéresse au championnat brésilien, à chaque début d'année, à chaque début de championnat, donc au mois de mars, on commence à se dire, c'est toujours comme ça, on commence à se dire quel petit crack on va découvrir cette année qui va exploser. Pour dire les choses clairement, on ne s'attendait pas à le voir arriver vraiment comme ça cette année en 2020. On est un garçon qui est arrivé fin 2019, au courant d'année 2019. Là, il a 20 matchs chez les pros. Il va pas tout éclater d'un coup. C'est déjà au Brésil, il arrive. Voilà, on les met. Il a jamais joué en équipe de jeunes internationale, enfin du Brésil. Donc on est dans un garçon qui est en train d'arriver. Donc je pense très sincèrement, je pense.
Ouais, tu veux dire que
ce que tu dis là, on parle de 12 millions d'euros, les gars. Excusez-moi.
Attendez.
Non, juste une chose. Et je te laisse.
Kevin et Jonathan.
En fait, tu veux dire que c'est plus un deuxième ou troisième tour de draft pour ceux qui suivent un peu le football américain. Mais tu vois, juste.
Attention, il y a des deuxième tours de draft qui sont des
incroyables. Et c'est exactement ce que j'allais finir par dire. Il y a aussi des fois des deuxième et troisième tours de draft qui ont été bien scoutés. Notamment, j'ai envie de faire confiance à Longoria. Mais ce que je disais pour Oussem Aouar, ça vaut pour ce jeune Brésilien. Normalement, ce genre de joueurs qui n'ont que 20 matchs en première division brésilienne, je suis désolé, ça doit valoir 2-3 millions d'euros. Ouais,
point barre. Non mais les gars, faut arrêter là.
Attends, Nico, et après Kevin, Jonathan.
Si on regarde, on va comparer un truc tout simple. Balerdi, quand il est arrivé à Dortmund, il est arrivé pour 15 millions.
Je
il
comprends.
Pas 20 matchs dans les pattes.
Une erreur. On a le droit de dire que c'est ridicule.
C'est ridicule.
Ah bah oui, mais c'est le marché.
Écoutez, bon, je veux juste repositionner les choses dans leur contexte et parce qu'en fait, ce truc, ça m'énerve. Donc ce soir, désolé Nico, on va parler d'un truc qui te semble peut-être un peu loin et t'aurais bien raison que ça semble loin. C'est la Ligue 1. Ce soir, on a vu. Je sais qu'en plus tu suis, t'es supporter Rennais, il me semble. Ce soir, on a vu.
Non, je suis pas supporter Rennais, j'habite à Rennes. Mais
t'habites à Rennes, c'est vrai. Non, t'es bordelais, c'est vrai. Excuse-moi. Bah voilà, c'est pour ça que t'es là, c'est pour Nicolas.
Vas-y.
On a vu quand même un match qui était entre Lille et Nantes. Et puis voilà, même si on lui a les supporters marseillais lui en veulent, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur quand j'ai vu Isaac Liadji rentrer sur la pelouse et provoquer quasiment lui tout seul le penalty du 2-0. Moi, je vois juste un garçon qui était à l'Olympique de Marseille, qui a été formé au club, qui aurait coûté 0+0 la tête à Toto à faire signer. À la rigueur, oui, il demandait une prime à la signature qui était peut-être un petit peu plus supérieure à ce qui se fait habituellement à l'Olympique de Marseille. Mais moi, je suis désolé. Quand t'as dans ton centre de formation des jeunes joueurs qui ont un très gros potentiel et qui me semblent, je suis désolé, je le connais pas moi, Enrique, mais à mon avis, vu ce que j'ai vu de Liadji et vu ce que Nicolas, et je pense qu'on peut tous faire confiance à Nicolas, nous dit d'Enrique, je pense que Liadji, c'est en termes de potentiel, c'est quand même un petit peu au-dessus, tu vois. Et en plus, tu l'avais sous les yeux. Donc moi, je suis désolé. Si je suis la direction de l'Olympique de Marseille, j'ai un jeune comme Isaac Liadji. Si c'est pour aller après acheter un jeune Brésilien que personne ne connaît vraiment, 12 millions d'euros, j'ai bien dit 12 millions d'euros avec les finances de l'OM, c'est-à-dire qui sont des finances restreintes, eh ben, je fais peut-être en sorte d'arriver à conserver mes jeunes. Et juste pour terminer, tout ça, en fait, moi, ça m'énerve parce que c'est dans un contexte général. Alors, je sais que les supporters olympiens en veulent à l'IAGI, les négociations ont été un petit peu sales, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que le club aurait pu cadrer un petit peu mieux les choses. Mais la dernière chose que je veux dire, c'est qu'on a eu longtemps aussi des problèmes au poste de latéral gauche. Très bien, on a fait signer Nagatomo, qui est un joueur qui est respecté, qui a eu plus d'une centaine de sélections avec le Japon. Mais quand je vois ce que fait le petit Nkunku avec Everton, qui plusieurs fois est joueur du match, alors oui, c'est des matchs en bois, mais à Everton, ils n'ont pas hésité à le faire signer tout de suite. Quand je vois que c'est deux joueurs qui ont été formés à l'OM et que sur deux postes sur lesquels l'Olympique de Marseille est en difficulté et que juste parce que ça vient de l'étranger et que c'est brésilien, on est capable de mettre 12 millions d'euros, et ben je suis dégoûté et simplement cette direction elle est médiocre et il y en a vraiment ras-le-bol. Et voilà, c'est tout.
Bon, cela dit,
c'est la politique sportive.
Tout à fait, désolé.
Je précise quand même que Pablo Longoria a un vrai crush pour Luis Enrique et que Villas-Boas a validé également l'arrivée de Luis Enrique. Ouais. Donc on est sur deux mecs qui connaissent un peu le foot et le scouting qui sont d'accord sur le profil du joueur. On verra.
Nicolas,
ne brûlons pas tout de suite Luis Enrique.
Nico,
12 millions, ça paraît fou maintenant.
Nico Kugo, tu l'as vu jouer Liadji déjà?
Écoute, non. Mais non.
Sinon, la comparaison, ton avis sur la comparaison était intéressant.
Mais sur le principe, là, tu vois, tu parles en termes de politique sportive. Dans ces cas-là, j'arrive à comprendre parce que Liadji peut jouer ce rôle-là, je crois, hein, si j'ai bien compris.
C'est le même profil.
En fond. Mais oui, dans ces cas-là, je suis d'accord. Après, c'est la politique du club. Maintenant, très honnêtement, le petit Brésilien, il est pour rien.
Ah, bien sûr.
Et voilà, mais lui, il a des qualités, voilà. Il a du travail, ça c'est sûr aussi. Mais d'un autre côté, à 18 ans, quand t'as pas de travail, c'est que tu t'appelles Neymar ou Mbappé. Et encore, même eux, ils en ont. Donc voilà, à cet âge-là. Mais oui, je suis d'accord sur la politique sportive. Après, sur le choix, sur le prix, même sur les 12 millions. Avant, l'Europe se servait de l'Amérique du Sud comme un espèce de coin des bonnes affaires. On a arnaqué la plupart des clubs argentins, un peu moins les Brésiliens, mais on les arnaquait bien en achetant pas cher et en vendant très cher. Maintenant, faut payer le prix. Point. C'est tout. On entend, c'est pareil, il y a la rumeur Marcos Paulo à Marseille. C'est 17 millions. Et Fluminense, qui n'a pas de thunes, qui a des problèmes d'argent, ne descendra pas. Donc voilà, c'est le marché. Maintenant, le marché mondialisé fait que l'Amérique du Sud se fait, il faut dire les choses aussi, beaucoup moins arnaquer qu'autrefois. Et tant mieux.
Et ils arnaquent aussi des fois.
Non mais il y a aussi.
Ça, oui, bien sûr.
Il y a peut-être aussi la fin de la tierce propriété aussi, qui fait que les prix sont plus élevés, non?
Ouais.
Voilà.
Bon, ouais, elle est pas vraiment terminée. Hein.
Ouais, c'est vrai, t'as pas tort.
Voilà pour le profil de Lucien Riquet. Bon, j'ai très envie de le voir jouer ce joueur, hein, pour savoir. Parce que même s'il est pas prêt dans un mois ou deux, on aura les prémices.
Ouais.
On saura ce qu'il vaudra sur ses premières minutes. Merci beaucoup, Nico. Tu reviens quand tu veux.
Merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs.
Merci, Nico.
Tu veux bien sûr.
Bonne soirée.
On n'a pas le temps de parler de Flotov, malheureusement, parce que Fred Armel va arriver.
J'ai tout dit dans les trois points.
Oui, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est la même thématique.
La situation est
pas d'anticipation. Flotovin dit aujourd'hui, on aurait dû venir un mois après la Coupe du Monde 18 pour prolonger. Aujourd'hui, il est clairement trop tard. Il va sûrement partir.
Je voulais juste mettre un petit bémol de 30 secondes. C'est juste que, c'est ce que je pense, mais je pense aussi qu'on peut aussi se rappeler du cas de Samir Nasri. Il y avait un grand président qui s'appelait
Patrick, dans le passé, hein.
qui restait un an de contrat et qui a re-signé au club pour que le club touche une vraie indemnité de transfert.
Tu voudrais que Flotovin fasse ça?
Bah, ouais, j'aimerais bien.
Ouais. Voilà, ouais. S'il fait ça, il aura pas sa prime à la signature ailleurs, quoi.
Pour faire ça, faut avoir un grand président et une vraie direction. Chose que l'OM n'a pas.
Voilà pour l'Olympique de Marseille après l'Olympique Lyonnais. Dans un